Il est 3h en temps universel, 5h ici à Paris. Merci d'écouter RFI.
Arthur Ponchelet.
À la une ce matin, 24 heures après l'annonce dans les jardins de la Maison Blanche, la réaction des bourses du monde entier aux droits de douane de Donald Trump. Wall Street a connu sa pire journée en 5 ans. Ces nouvelles taxes sont un risque important pour l'économie mondiale, dit le FMI. Dans le monde, comment la riposte s'organise-t-elle? On est à Bangkok et à Paris dans ce journal. Ils ont eu un entretien fructueux dans une ambiance détendue et conviviale. Félix Tshisekedi et le nouveau conseiller Afrique de Donald Trump se sont rencontrés hier à Kinshasa. Les deux hommes ont notamment évoqué l'accord sur les minerais entre la RDC et les États-Unis. Au sommet également, Yoon Suk-yeol destitué par la Cour constitutionnelle sud-coréenne, l'ancien président accusé d'avoir violé la constitution en instaurant la loi martiale en décembre dernier. Et puis on est au Japon où un scandale sanitaire secoue la plus grande chaîne de restauration rapide du pays. Des rats et des cafards se sont retrouvés dans les assiettes. On vous raconte tout à la fin de ce journal. Cela devait être le jour de la libération. Cela s'est transformé en la pire journée pour les bourses américaines depuis 5 ans. Après les droits de douane annoncés par Donald Trump, le séisme sur les places boursières du monde entier. À Wall Street, les secteurs de la tech et de l'habillement voient des milliards de dollars d'actions partir en fumée. Mais pas d'inquiétude, dit le président américain. L'économie va finir en pleine forme, a-t-il déclaré hier. Le reste du monde, lui, se prépare à répondre aux nouvelles taxes américaines. Exemple en Asie du Sud-Est, région du monde particulièrement frappée par ces nouveaux droits de douane. Car au Lisou, en Thaïlande, qui écope de 36% de taxes en plus, les autorités se veulent rassurantes.
Dans les rues de Bangkok, malgré un tremblement de terre récent et l'annonce de nouvelles barrières douanières américaines, qualifiées par certains éditorialistes de tremblement de terre économique, l'ambiance est à l'apaisement. Jeudi 3 avril, la première ministre Petong Tan Chinawat est apparue devant la presse pour appeler les communautés d'affaires, notamment le secteur électronique et automobile particulièrement touché, à la confiance. Il y aurait là l'opportunité, dit-elle, de remettre à plat les relations économiques et diplomatiques avec les États-Unis.
Il ne faut pas s'inquiéter, le gouvernement a un plan déjà prêt. D'abord, il s'agit de déterminer à quel niveau politique on doit discuter de ces barrières douanières. Nous pensons qu'il faut en discuter au plus haut niveau de l'État. On peut s'entendre avec les États-Unis si on trouve une façon de mieux structurer les taxes.
La Thaïlande n'est pas le seul pays de la zone à être affecté par ces taxes. 46% pour le Vietnam, 49% pour le Cambodge. La presse locale appelle à une réaction concertée des pays de la zone ASEAN. Le dossier des barrières douanières pourrait même être une occasion pour cet espace économique de se structurer politiquement sur le modèle européen. Carole Izou, Jadel Khoury, Bangkok, RFI.
L'Europe, justement, cherche aussi la réponse à Donald Trump. Et elle prend son temps. Pas de riposte annoncée avant la fin du mois. Ça, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Hier, le président français réunissait les représentants des principales filières économiques du pays. Viticulture, agriculture, santé ou encore cosmétique. Il appelle ces secteurs à suspendre leurs investissements aux États-Unis tant que la situation n'aura pas été clarifiée, a-t-il dit. Parlant de décision brutale et infondée de la part de l'allié américain, pas de quoi convaincre l'opposition et notamment la présidente de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, la députée LFI Aurélie Trouvé.
Il n'y a aucun plan. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que face à un choc aussi majeur, alors même que les industriels de ce pays, les grands industriels, disent on a un problème, on est en train pour un certain nombre de secteurs de s'effondrer. Et bien, face à ça, vous avez un président Macron qui ne change rien quasiment à son logiciel et qui ne planifie rien. D'ailleurs, on a un Premier ministre qui était d'ailleurs censé être le haut commissaire au plan, qui n'a jamais rien planifié depuis 4 ans et maintenant qu'il est Premier ministre, il planifie toujours rien.
Aurélie Trouvé avec Aurélien Devernois, les réponses et les tentatives de riposte du monde entier aux nouveaux droits de douane américains. On y revient aussi longuement sur notre site RFI.fr. Donald Trump a aussi esquissé le rachat à venir de TikTok. On est très proche d'un accord avec un groupe d'investisseurs, dit le président américain. L'entreprise chinoise ByteDance, maison mère de TikTok, a jusqu'à demain pour céder sa filiale américaine, faute de quoi l'accès au réseau social sera coupé. Dans l'actualité politique aux États-Unis, le Signal Gate continue d'empoisonner l'administration Trump. Souvenez-vous, des hauts responsables américains avaient inclus par erreur un journaliste à un groupe de discussion pour parler des plans d'attaque au Yémen. Et désormais, Guillaume Nodin, le Pentagone ouvre une enquête.
L'inspecteur général du ministère de la Défense l'a fait savoir directement au ministre Pete Hegseth. Il va enquêter pour savoir jusqu'à quel point lui et d'autres hauts responsables s'appuient sur une messagerie commerciale plutôt que sur les outils cryptés officiels pour discuter de sujets hautement sensibles, incluant au passage accidentellement un journaliste. Le groupe avait été créé à la mi-mars par le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz. Il vit des moments assez difficiles. Selon des informations de presse, il a créé une vingtaine de groupes du genre et il a aussi utilisé un courriel privé pour discuter d'affaires qui concernent le gouvernement. De plus, il a dû se séparer de plusieurs membres de son équipe cette semaine. Ce n'est apparemment pas une conséquence directe de l'affaire, mais plutôt une question de loyauté, une valeur cardinale pour Donald Trump. La décision est arrivée au lendemain d'une visite à la Maison Blanche de la militante d'extrême droite et volontiers complotiste Laura Loomer. Selon plusieurs sources, elle s'est attaquée à une dizaine de personnes de l'équipe de sécurité nationale devant Donald Trump et Mike Waltz, qui a tenté de défendre ses hommes, manifestement en vain, ce qui peut être une indication de la fragilité de sa position. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
3h06, en temps universel, le nouveau conseiller de Donald Trump pour l'Afrique lui poursuit sa tournée sur le continent. Massad Boulos est attendu à Kigali, au Kenya et en Ouganda. Hier, il était à Kinshasa, la capitale congolaise où il a rencontré le président Félix Tshisekedi. Ensemble, ils ont évoqué les questions sécuritaires mais aussi leur collaboration économique. RFI Kinshasa, Pauline Azidi.
C'est un grand plaisir d'être à Kinshasa. Ma première étape en tant que conseiller principal du président Trump pour l'Afrique.
Massad Boulos, pour sa première rencontre avec un chef d'État africain, a donc choisi la RDC. Deux heures d'un entretien fructueux dans une ambiance détendue et conviviale, souligne-t-on du côté de Kinshasa. Les deux pays se disent prêts à dynamiser leurs échanges économiques.
Pour atteindre cet objectif, soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois, de transferts de connaissances, d'investissements dans l'infrastructure de pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité.
Et Massad Boulos d'annoncer que les deux pays travaillent sur le deal minier. Pour les Américains, c'est un accès aux ressources contre une aide à la sécurité. Du côté de Kinshasa, on mise surtout sur l'influence des États-Unis pour mettre fin au conflit qui secoue l'est du pays où l'armée est aux prises avec le groupe M23 soutenu par le Rwanda voisin. Kigali, c'est d'ailleurs la prochaine étape de Massad Boulos et il a un message à faire passer, confie un proche du président Tshisekedi. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Le président sud-coréen définitivement destitué par la Cour constitutionnelle. Le verdict est tombé il y a quelques minutes. Yoon Suk-yeol est accusé d'avoir violé la Constitution en instaurant notamment la loi martiale en décembre dernier, mais aussi en empêchant l'Assemblée nationale d'exercer son autorité. Son parti accepte solennellement la décision de la Cour, décision saluée par le chef de l'opposition qui dit que le président Yoon Suk-yeol a menacé le peuple et la démocratie après une crise politique. La Corée du Sud se dirige donc vers une nouvelle élection présidentielle. On en parle avec notre correspondante à Séoul, dans le journal de 5h, temps universel. D'ici là, on part pour le Japon avant de refermer ce journal. Du cafard dans le riz et des souris dans le bœuf. La plus grande chaîne de restauration rapide du pays au cœur d'un scandale sanitaire, Sukiya, ferme cette semaine ses près de 2000 établissements pour une opération exceptionnelle de désinfection. La suite, c'est Bruno Duval qui nous la raconte à Tokyo.
Au Japon, les gyudon de la chaîne Sukiya sont immensément populaires. Ce terme désignant des bols de riz garnis d'oignons mijotés et de fines lamelles de bœuf braisé. Que dans ces plats, on ait trouvé aussi un rongeur puis un cancrelat, ces tokyoïtes n'en reviennent pas.
Quel scandale ahurissant! Cette fermeture générale, elle était vraiment inévitable.
Fermer pendant une semaine, ça ne suffit pas. Il faut expliquer les raisons de ces incidents aussi effarants et les mesures qu'on va prendre pour éviter qu'ils ne se reproduisent.
Moi, en tout cas, je ne mettrai plus jamais les pieds dans les restaurants de cette enseigne.
Des dizaines de milliers de salariés au chômage technique et pas la moindre démission au sommet de cette chaîne, les bras m'en tombent.
Il y a quelques années déjà, la filiale japonaise du géant américain des hamburgers, puis une chaîne de restaurants de sushi, avait été épinglée pour la propreté régnant dans leurs établissements. Les experts attribuent cette succession de scandales à la pénurie de main-d'œuvre qui frappe le pays, due à près de 20 années de dénatalité. Comme il y a de moins en moins de jeunes à embaucher, la plupart des entreprises sont en sous-effectif, elles bâclent donc la formation du personnel et les contrôles de qualité. Bruno Duval, Tokyo. RFI.
Et c'est à Tokyo, il est 12h10, 3h10 en temps universel. Que se referme ce journal? Tout de suite, c'est grand reportage sur RFI.